supporters pour cette semaine du 15 au 21 janvier. Pour commencer la semaine, faisons un petit bilan Covid. Selon l'AFP, le coronavirus a fait plus de 2 millions de morts dans le monde depuis son apparition, les États-Unis étant les plus touchés, suivis par le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, annonce également ce vendredi. Il y a une lumière au bout du tunnel, mais le tunnel est très long. Le comité prévoit de faciliter l'accès aux vaccins dans les pays pauvres, mais renonce à l'instauration d'un passeport vaccinal. La pandémie a aussi affecté les compagnies aériennes à une échelle considérable. L'Organisation de l'aviation civile internationale met en avant une chute du nombre de passagers de 60% et compte une perte cumulée de 370 milliards de dollars.
Tant que nous parlons de la santé, continuons donc avec Amsterdam, où les coffee shops pourraient bientôt être amenés à fermer. La maire écologiste Femke Halsema compte en effet limiter le tourisme du cannabis dans le pays, lutter contre le trafic européen et redorer l'image de la ville. Cela s'avère toutefois être un sacré défi. En effet, 1,5 million de touristes franchissent les portes des 166 coffee shops de la ville chaque mois. Un certain manque à gagner.
Ce vendredi 15 janvier, 5 des 10 suspects placés en garde à vue ont été mis en examen pour trafic d'armes militaires à des trafiquants de drogue et des sympathisants de l'extrême droite. 4 ont été incarcérés pour détention d'armes de catégorie C.
Stéphane Peter-Hansel remporte son 14e Paris-Dakar à 55 ans. Le pilote français était accompagné d'Edouard Boulandet, son copilote.
Un peu de sport d'hiver ce samedi 16 janvier, les Français Clément Noël et Tessa Worley ont tous les deux décroché la seconde place lors de leurs compétitions respectives. Le slalom de Flachau en Autriche pour Noël et la course de Kranjska Gora en Slovénie pour Worley. De l'autre côté du globe, cette fois en alpinisme, des Népaliens ont brisé un record du monde, celui de grimper le K2 en hiver, le deuxième plus haut sommet du monde et l'un des plus dangereux, se dressant à 8611 mètres. L'expédition n'est pas une réussite totale néanmoins, un alpiniste espagnol est mort lors de la descente.
Il y a peu, le mondial de handball a sifflé son coup d'envoi en Égypte. C'est ainsi qu'une nouvelle équipe de France, les Bâtisseurs, s'engage dans la compétition après un euro complètement raté. Ils battent alors l'Autriche 35 à 28 après s'être imposés face aux Norvégiens 28 à 24. Les Bleus sont ainsi qualifiés pour le premier tour.
Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, s'adresse aux Iraniens ce samedi 16 janvier en leur disant, et je cite, « que cela suffit ». En effet, il incite, soutenu par Berlin et Londres, l'Iran a renoncé à la production d'uranium métal qui soulève des inquiétudes au sein de la communauté internationale. Monsieur Le Drian estime « L'Iran, je le dis clairement, est en train de se doter de la capacité nucléaire. Il est donc urgent de dire aux Iraniens que cela suffit et de prendre des dispositions pour que l'Iran et les États-Unis reviennent dans l'accord de Vienne. Un accord qui assurerait que l'Iran ne développerait l'arme nucléaire en échange d'une levée partielle des sanctions internationales contre Téhéran prises suite aux guerres du Golfe. »
En Ouganda, Yoweri Museveni est réélu pour son 6e mandat avec 58,6% des sondages en sa faveur contre 34,83% pour Bobi Wine. L'opposant crie à la fraude électorale dans un contexte politique tendu.
La lutte pour l'ouverture des archives sur le génocide du Rwanda est entrée dans une phase décisive. L'ouverture de ces archives pourrait permettre de déterminer si la France pourrait être accusée de complicité dans l'affaire. Un peu d'histoire, en 1974, le génocide contre les Tutsis au Rwanda a fait environ 800 000 morts et la place de la France dans ce conflit reste floue. En juin 2020, le Conseil d'État a donc permis à François Granier, un chercheur, de consulter les documents afin de déterminer si les informations permettent de tenir pour responsable la France et de les rendre publiques.
Passons désormais au dimanche 17 janvier. Le Darfour occidental, à l'ouest du Soudan, est en proie à des affrontements meurtriers. Le bilan s'élève à 50 morts et 100 blessés pour la confrontation entre les Al-Masalites, une tribu, et les Al-Jinema, des nomades arabes. Il s'agit d'une des journées les plus meurtrières depuis le retrait de la mission de la paix de l'ONU.
Ce dimanche, deux juges afghans de la Cour suprême ont été tués par balle à Kaboul par des hommes armés qui se sont attaqués à leur véhicule alors qu'elles se rendaient sur leur lieu de travail. La capitale est ravagée depuis plusieurs mois par des attentats ciblés suite à l'accord de février entre Trump et les talibans qui assure le retrait complet des troupes américaines dans le pays.
Surprise, surprise, Alexei Navalny est interpellé dès son arrivée à Moscou et passera 30 jours en prison. Des séances auraient été tenues en l'absence de son avocat.
Nous avions parlé il y a quelques semaines de deux nouveaux textes de loi à propos de l'accès de la PMA pour toutes les femmes et la prolongation du délai pour avorter. Eh bien, ce dimanche 17 janvier, entre 4 et 6 000 personnes se sont réunies place du Trocadéro, à Paris, lors d'une « marche pour la vie » pour manifester contre ces lois qui devraient prochainement être votées par l'Assemblée nationale. Selon Eliette Espieux, porte-parole du mouvement, le message est de rappeler que l'avortement est avant tout une violence faite aux femmes. On a souvent l'habitude de le représenter comme un droit, mais c'est un droit de se faire bâillonner.
Ce lundi, une édition annotée de Mein Kampf paraît en Pologne. Il s'agit de la deuxième jamais parue. Fayard annonce en même temps une édition française pour 2021.
Ce jeudi 18 janvier, c'est l'héritier de Samsung qui se voit condamné à 2 ans et demi de prison pour corruption et détournement de fonds. Lee Jae-wong avait déjà été jugé en 2017, mais avait été condamné à une peine de prison avec sursis. L'homme de 52 ans a hérité de l'empire bâti par son père mort en octobre, une entreprise qui constitue 1/5 du PIB sud-coréen.
Triste nouvelle, Jean-Pierre Bacri nous quitte à 69 ans à cause d'un cancer. L'homme était dramaturge, scénariste et acteur.
2 jours avant son départ, Donald Trump décide d'autoriser la reprise des vols transatlantiques vers l'Union européenne, le Brésil et le Royaume-Uni. Une décision un peu contre-productive car le président des États-Unis semble avoir ignoré les variantes du Covid qui se développent dans les 2 derniers pays.
Ce mardi, un quart des salariés d'EDF étaient en grève contre la réforme du projet Hercule. La CGI, la CFDT, la CGC et la FO écrivent à Emmanuel Macron en accusant un démantèlement des groupes qui ne répond en rien aux exigences de leur époque et de l'avenir des nouvelles générations. L'objectif de ce projet est de diviser EDF en 3 grands groupes. EDF bleu, tout d'abord, qui s'occupera du secteur public et du secteur nucléaire. EDF vert, qui s'occupera de la distribution de l'électricité ainsi que des énergies renouvelables. Et enfin, EDF azur, qui s'occupera du secteur hydroélectrique.
Malgré son incarcération, Alexei Navalny n'arrête jamais d'attaquer le Kremlin. Ce mardi, il publie une enquête sur le palais de Poutine, assurant que Poutine est propriétaire d'un vaste terrain de 7000 hectares et d'immenses propriétés sur les rives de la mer Noire, qui compterait des vignobles, une enceinte de hockey sur glace ou encore un casino. Navalny désire dénoncer la forte corruption présente en Russie, qui bénéficie le président qu'il qualifie d'obsédé par la richesse et le luxe.
Quelques milliers de migrants honduriens sont bloqués à la frontière guatémaltèque. Plusieurs cas de Covid se sont déclarés parmi ceux qui espéraient atteindre la frontière américaine.
Ce mercredi, les États-Unis accueillent leur nouveau président, Joe Biden, et vice-présidente Kamala Harris lors de la cérémonie d'investiture. Donald Trump, toujours mauvais perdant, n'a pas assisté à la cérémonie et s'est rendu en Floride dans sa résidence de luxe. Le 20 janvier a été caractérisé comme une journée dite d'espoir pour les États-Unis et Joe Biden annonce lors de son discours que la démocratie l'a emporté, la volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été respectée. Il promet également de vaincre le suprémacisme blanc et le terrorisme en référence aux événements du Capitole 2 semaines plus tôt.
Biden qui se dépêche donc de faire un certain nombre de décrets afin de changer le cap pour faire face aux crises climatiques, sanitaires, économiques et sociales connues par les États-Unis.
La librairie des grands caractères ouvre ses portes à Paris près du Panthéon ce mercredi 20 janvier. Comme l'indique son nom, cette librairie est destinée aux malvoyants, mais également aux lecteurs atteints de troubles d'apprentissage et de difficultés cognitives.
Les étudiants manifestent leur mal-être. Nombreux sont ceux qui n'ont pas eu de cours en présentiel depuis la rentrée de septembre et qui dénoncent les inégalités entre les filières. Les classes préparatoires ont un statut privilégié, par exemple.
En réponse aux manifestations, Emmanuel Macron, ce jeudi 21 janvier, met en place des mesures dites pour améliorer le quotidien des jeunes dans les universités. Il promet le retour des étudiants dans leur établissement au moins une fois par semaine, accorde 2 repas par jour à 1 euro pour les étudiants non boursiers et internationaux, et met en place le chèque psy dès le 1er février, une consultation gratuite pour les jeunes en besoin de soutien.
Cela fait désormais 14 jours que le journal L'Équipe est en grève. Un plan visant à licencier 50 salariés, dont 47 journalistes, est dénoncé. Afin de mettre la pression au cadre, les journaux ne paraissent plus.
Suite à la polémique de l'inceste qui fait face en France, le Sénat vote la création d'un nouveau crime sexuel qui interdit tout rapport sexuel avec un mineur de 13 ans, avec ou sans consentement. La loi est félicitée par le public, mais l'âge énoncé est remis en cause par des associations de protection de l'enfance, jugeant que 13 ans est trop jeune et préférant que la loi pousse l'âge du consentement à 15 ans.
Décidément, beaucoup de manifestations et de syndicats en France cette semaine. Les salariés de l'usine Carambar de Marc-en-Barœul, dans le Nord, ralentissent la production en passant de 120 tonnes à 12 tonnes de production. Ils luttent contre la suppression de leur prime qui représenterait une chute moyenne de 22% de leurs revenus. En 2021, dans ces heures sombres, la France devra non seulement faire face au SARS-CoV-2, mais aussi à la pénurie de Carambar.
Ce jeudi 21 janvier, le créateur et dessinateur de Michel Vaillant, Jean Graton, est mort à l'âge de 97 ans.
Conflit concernant les Jeux Olympiques de Tokyo, les cadres japonais souhaitent leur report, voire annulation pour des raisons économiques bien entendu, tandis que le Conseil des Jeux Olympiques tient à leur maintien pour le respect des athlètes, mais aussi pour le sport international. C'était Zachary Pénès et Marie Hart pour l'Hebdo des Jeunes Reporters, à la semaine prochaine.